Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge, pour vous présenter cette édition du 8 novembre 2018. Madagascar, Ouatchoualéna, à Marc Ravalonana sont en tête de la présidentielle selon des résultats partiels. En République démocratique du Congo, 17 membres d'un groupe armé ont été tués au Kasaï dans une opération militaire. Un policier tué en Guinée au lendemain de la mort de deux manifestants. Des ONG internationales et mauritaniennes appellent à la libération du blogueur Mohamed Makaïtir. États-Unis, 12 morts et de nombreux blessés dans une nouvelle fusillade en Californie. La Minute Éco et les sports, ce sera juste après le journal. À Madagascar, deux anciens présidents sont au coude à coude après le premier tour de l'élection présidentielle, selon des résultats partiels publiés par la commission électorale. Le point avec Jacques Aristide.
Henri Rajoenar Mampian, qui a été au pouvoir de 2014 à septembre de cette année, affirme que des anomalies techniques ont été détectées. Il évoque notamment un fichier électoral non valide, la présence de bulletins déjà précochés, des retards dans la mise en place des équipements et des installations de vote, ou encore des intimidations. Tout porte à croire, dit-il, que le vote de la population malgache a été victime de ces détournements au lendemain du scrutin qui s'est déroulé dans le calme. Le président sortant demande aux institutions compétentes de ne laisser passer aucune tentative de manipulation. D'après des résultats très partiels et provisoires, portant sur 291 des 24 852 bureaux de vote, R. Rajoenar Mampian a obtenu 3,29% des voix. Il arrive en troisième position, très loin derrière deux autres ex-présidents, André Rajoelina, accrédité pour l'heure de 45,07%, et Marc Ravalomanana, 40,30%. Les trois hommes étaient donnés favoris du scrutin, destinés à consolider la démocratie dans ce pays, coutumier des crises politiques et post-électorales.
17 membres d'un groupe armé ont été tués au Kasaï en RDC dans une opération militaire contre des milices se réclamant du chef rebelle Kamuina Nsapu, tué en 2016. Près de 60 miliciens étaient réunis dans la forêt autour de leur chef Kawayi Dewayo. L'armée les a surpris et a ouvert le feu dans la forêt de Minchanga, dans le territoire de Luebo. Selon un chef traditionnel, Kawayi Dewayo et son épouse n'ont pas été retrouvés, mais leur enfant de 3 ans et d'autres miliciens ont été capturés, a-t-il indiqué. Un policier a été tué en Guinée où l'opposition a annoncé un deuil de 5 jours après la mort mercredi de deux manifestants. Le policier a été bastonné par des jeunes de Wanidara, indiqué le directeur régional de la police de Conakry, Boubacar Kassé. Deux jeunes avaient été tués hier soir dans ce même quartier par des tirs de militaires dans des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Le ministre burundais de l'Intérieur a refusé d'agréer le nouveau parti politique d'Agathon Rwasa en invoquant une violation de la loi. Dans une lettre adressée à l'opposant, il dit avoir constaté que des sigles, emblèmes et devises sont semblables à ceux d'un parti politique déjà agréé. Une allusion au parti issu de l'ex-rébellion Hutu des FNL, dont le chef historique Agathon Rwasa avait été évincé en 2011. Nouvelle attaque au Burkina Faso où un gendarme a été blessé dans l'attaque d'une brigade dans le nord du pays. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Des hommes armés ont attaqué tout ce matin la gendarmerie de Namsigian à 135 km de Ouagadougou. L'attaque a duré une vingtaine de minutes avant d'être repoussée par les forces de sécurité. C'est une première en Namsigian à 35 km de Djibo dont la gendarmerie a déjà été attaquée à la mi-octobre. Lundi, deux militaires ont été tués et 3 blessés à Nassumbu, toujours dans le nord, lorsque leur véhicule a sauté sur un engin artisanal. D'abord localisé dans le nord, les attaques se sont étendues à d'autres localités, surtout dans l'est du pays. Ouagadougou a été frappé à 3 reprises, dont la dernière fois en mars. Ces attaques ont fait près de 60 morts rien que dans la capitale. Selon un bilan officiel, les attaques attribuées aux islamistes ont fait 118 morts ces 3 dernières années, soit 70 civils et 48 membres des services de sécurité.
32 ONG mauritaniennes et internationales ont publié un communiqué conjoint appelant les autorités mauritaniennes à libérer rapidement et dans les meilleures conditions de sécurité le blogueur qui est toujours détenu alors qu'une cour d'appel a ordonné il y a un an de commuer sa peine de mort, indique Amnesty International. Mohamed Makaitir est détenu dans un lieu secret où il ne peut pas consulter ses avocats. Il a été arrêté en 2014 pour avoir publié un billet de blog sur l'esclavage et la discrimination. En Égypte, 65 djihadistes présumés ont été condamnés avec des peines de prison, dont 18 à perpétuité. Le point avec Raïssa Girondin.
Les 65 accusés sont condamnés pour fondation d'une cellule terroriste en Haute-Égypte qui a prêté allégeance à Abou Bakr el-Baghdadi, le chef du groupe État islamique. 18 ont écopé de la prison à perpétuité, équivalent à 25 ans en Égypte. 41 personnes ont été condamnées à 15 ans de prison ferme. 6 mineurs ont écopé 5 ans d'emprisonnement. 2 personnes ont été acquittées. Le dirigeant de ce groupuscule, Mostafa Ahmed Abdelal, surnommé l'émir, et ses partisans ont été déférés devant la justice en mai 2017. Seuls 47 prévenus étaient présents à l'audience. Ces condamnations peuvent faire l'objet d'un appel. Ces procès de masse sont régulièrement dénoncés par les organisations de défense des droits de l'homme. En outre, hier mercredi, 8 membres présumés du groupe État islamique dans la province du Sinaï ont été condamnés à mort par un tribunal militaire pour une attaque meurtrière contre l'armée en 2016. En février, le Caire a lancé une vaste opération baptisée Sinaï 2018 pour les déloger. Plus de 450 djihadistes présumés et une trentaine de soldats ont été tués.
Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a critiqué le remaniement décidé par le premier ministre Youssef Chahed. Immédiatement après l'annonce du remaniement lundi soir, la présidence avait fait savoir qu'elle ne l'approuvait pas. Le premier ministre doit avertir le chef de l'État dans tout ce qu'il décide, a souligné monsieur Caïd Essebsi. Le Soudan s'est félicité de la décision des États-Unis d'entamer des négociations visant au retrait de Khartoum de la liste noire des pays soutenant le terrorisme. Washington avait placé le Soudan sur cette liste en 1993 alors que Ben Laden vivait dans ce pays. Dans un communiqué hier, les États-Unis se disent prêts à lancer ce processus si le Soudan manifestait sa disposition à s'aligner sur toutes les normes internationales inhérente à la lutte antiterroriste.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouvelle fusillade ici aux États-Unis. Un ancien marine a ouvert le feu hier soir dans un bar près de Los Angeles en Californie, tuant 12 personnes. Abdourahman Dia.
Les autorités n'ont pas précisé à ce stade si l'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre ou s'il s'est suicidé. Le mobile du crime non plus n'est pas connu. Mais les médias américains révèlent qu'il a eu dans le passé des problèmes de santé mentale. Il y a également plusieurs blessés admis dans plusieurs hôpitaux de la région, a indiqué le shérif de ce comté à la périphérie de Los Angeles. C'est une scène horrible, il y a du sang partout, a-t-il confié. Dans un tweet ce matin, le président des États-Unis, Donald Trump, a dit avoir été tenu pleinement informé de la situation en Californie. La police a fait preuve d'un grand courage. Les unités de la police étaient sur place en 3 minutes, a-t-il ajouté. D'ailleurs, un policier a succombé suite à ses blessures. Il y a moins de 2 semaines, une autre fusillade aux États-Unis avait fait 11 morts dans une synagogue de Pittsburgh. Ces attaques relancent à chaque fois le débat sur les armes à feu dans le pays.
Les démocrates accusent le président Donald Trump d'avoir porté atteinte à l'indépendance du judiciaire et à la liberté de la presse en limogeant son ministre de la Justice et en retirant l'accréditation d'un journaliste critique. Les États-Unis sont au bord de la crise constitutionnelle, ont dénoncé plusieurs parlementaires choqués par le départ contraint de Jeff Sessions au lendemain des élections de mi-mandat. Fort de leur nouvelle majorité à la Chambre des représentants, certains démocrates ont brandi la menace d'une enquête parlementaire dès qu'ils prendront leurs fonctions en janvier. 24 prisonniers et un gardien et un soldat ont été tués dans une émeute dans une prison au Tadjikistan. Ce centre pénitentiaire de haute sécurité à Khojent accueille des détenus condamnés à de longues peines, dont des membres du groupe terroriste État islamique. Les forces spéciales ont été envoyées pour aider à rétablir l'ordre. Et les forces pro-gouvernementales yéménites ont effectué une percée à l'intérieur de Hodeïda, cité portuaire contrôlée par les rebelles houthis, où des combats meurtriers inquiètent les humanitaires. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
En Côte d'Ivoire, le groupe agro-industriel français Satol annonce un investissement d'environ 33,5 milliards de francs CFA pour l'installation d'une zone industrielle consacrée au manioc à Assumvué dans le centre du pays. Ce projet inclut la création d'une usine de transformation du manioc d'un coût de 15 milliards de francs CFA et devrait aussi permettre une commercialisation aisée des produits tels que la farine, l'amidon et le bioéthanol. Avec une production estimée à près de 38 000 tonnes de farine et d'amidon de manioc par an, Satol entend également créer 1 360 emplois. Au Cameroun, la crise anglophone fait chuter les exportations de bananes à 13 394 tonnes contre 43 400 tonnes en 2017, selon l'Association camerounaise de la banane. Des séparatistes ont multiplié les exactions dans les plantations de la Cameroon Development Corporation qui exploite des milliers d'hectares de bananeraies dans le sud-ouest anglophone. Au moins 12 sites de production sur 29 ont été fermés et 10 autres sites tournent au ralenti. Terminons avec la Tanzanie qui ambitionne de produire 50 000 tonnes de thé sur les 5 prochaines années, soit 47% de plus que son niveau actuel de 34 000 tonnes. Cette augmentation de la production devrait passer par une hausse de 30 000 hectares d'ici 2023. Le gouvernement tanzanien veut dynamiser le secteur du thé et accroître sa contribution à l'économie. D'après la Banque africaine de développement, l'agriculture génère 33% du produit intérieur brut et emploie 75% de la main-d'œuvre.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
La CAF a levé le huis clos partiel de Rades.
Battu 3-1 par Al Ahly en finale aller de la Ligue africaine des champions, l'Espérance Tunis pourra compter sur le soutien de l'ensemble de ses supporters demain à Rades pour le match retour. La CAF a en effet répondu favorablement à la requête des Sang et Or qui réclamait la levée de la suspension frappant l'un de leurs virages pour cette rencontre. L'Espérance sportive de Tunis avait même menacé de boycotter le match en cas de réponse défavorable. Ce sont donc 60 000 supporters qui pousseront Youssef Belaïli et ses hommes.
Quatre nouveaux chez les éléphants de Côte d'Ivoire.
Oui, le sélectionneur Ibrahim Camara a fait confiance à Souleymane Doumbia, de Grasshopper de Zurich, cher Comara du Wydad Athletic Club de Casablanca, Eladj Danté de Lissa de Sassandra et Yakou Meïté de Reading pour le match de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2019 contre la Guinée à Conakry. Le reste, c'est du classique avec les cadres Serge Aurier, Éric Bailly, Sylvain Bouhou, Séré Dié, Jean-Michel Séry ou encore Max Gradel. On note aussi le retour de Gbamin. Si le Sili National n'a besoin que d'un match nul pour assurer sa qualification, les éléphants doivent l'emporter pour valider dès ce mois leur ticket pour le Cameroun.
C'est la quatrième journée de la Ligue Europa ce soir.
Et oui, Arsenal et Chelsea peuvent se qualifier dès ce soir pour les 16e de finale en cas de succès respectivement contre le Sporting Portugal et le Bate Borisov. En revanche, Marseille, finaliste malheureux de la précédente édition, est au bord de l'élimination. Une défaite chez la Lazio Rome qui l'a corrigé 3-1 à l'aller au stade Vélodrome et ça n'est fini des rêves européens pour les hommes de Rudy Garcia. La Lazio sera qualifiée si elle bat Marseille et que l'Apollon Limassol, dans le même temps, ne bat pas Francfort.
Le PSG dénonce une initiative personnelle dans l'affaire du fichage ethnique.
Le club parisien a confirmé que des formulaires avec des contenus illégaux ont été utilisés entre 2013 et 2018 par la cellule de recrutement du centre de formation. Le PSG soutient toutefois que cela est une initiative personnelle du responsable du département de recrutement. Sous les catégories français, maghrébins, antillais ou africains, des recruteurs du PSG ont fiché ethniquement pendant des années des jeunes joueurs scrutés par le club sous un nouveau dossier des Foot Leaks relayé en France par Mediapart.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Après 25 ans d'exil, Cheikh Ibn Oumar, ancien chef de la diplomatie tchadienne, passé à l'opposition armée, a regagné la légalité. C'est une conséquence de l'ordonnance du 31 mai portant amnistie générale des atteintes à l'intégrité de l'État signée par le président Idriss Déby. Les associations de défense des droits humains et l'opposition dénoncent une application sélective de cette amnistie. Notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajingar, nous en dit plus.
Ancien cadre du Frelinga, Front de Libération Nationale du Tchad, le désormais ex-rebelle Cheikh Ibn Oumar fut nommé conseiller spécial du président Déby de 1990 à 1991 après la chute de l'ancien président tchadien Hissène Habré, puis ambassadeur du Tchad aux États-Unis et haut représentant du Tchad auprès des Nations Unies de 1992 à 1993. Et c'est à son dernier poste qu'il a basculé dans la rébellion où il a été très proche des mouvements politico-militaires qui ont tenté de renverser le régime au pouvoir. Cheikh Ibn Oumar se rend compte, après 20 ans de lutte armée, que l'exil politique est une anomalie.
La place normale de tout homme politique, c'est être au sein de sa société. Mais les circonstances, parfois, imposent ce genre de situation. Donc pour moi, c'est juste un retour à la normale.
Aussitôt rentré, les autorités judiciaires lui ont délivré une réquisition aux fins de non-poursuite. Le ministre en charge de la sécurité publique, Ahmad Mohamed Bachir, lance un appel à tous les politico-militaires de déposer les armes.
Que tous les Tchadiens rentrent au Burkaï pour contribuer au développement de notre pays. Ça ne sert à rien de rester arme en main pour avoir quoi et pour être qui.
L'opposant historique du régime de N'Djamena, Yurongar Ngarledji, dénonce l'application sélective de l'amnistie générale accordée à tous ceux qui se sont rebellés contre les institutions de la République.
Actuellement, il y a des prisonniers qui sont amnistiés par cette ordonnance. Mais pourquoi ils sont restés encore en prison? Des centaines. Où est la sincérité là-dedans? Peut-être que Déby a changé et que les gens avec lesquels il négocie ne seront plus tués. Parce que Déby n'est pas un enfant de cœur et il n'oublie pas ce que Cheikh lui a fait subir, aussi bien sur le front de guerre que sur le plan politique.
Pour le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, par ailleurs avocat au barreau du Tchad, Maître Midaï Kirimbay, l'application sélective de cette amnistie prouve à suffisance que tous les Tchadiens ne sont pas égaux devant la loi.
Cheikh qui est rentré, mais je pense aussi à Baba Ladi qui est en prison. Tous les deux, théoriquement, devaient bénéficier de l'amnistie. Mais ce qu'il faut retenir, au Tchad, la loi n'est pas valable pour tout le monde. Et c'est cette injustice qui crée des rébellions, qui crée des révoltes. Donc moi, je ne suis pas étonné que M. Cheikh puisse bénéficier de l'amnistie et que d'autres qui ne sont pas de la bonne race puissent ne pas bénéficier de ces choses-là.
Nous avons tenté de savoir pourquoi les autres détenus politiques ne bénéficient pas de ce pardon légal du chef de l'État. Le ministre en charge de la sécurité publique, Ahmad Mohamed Bachir, a déclaré sans embâge que cette question est sans objet. André Kodmajingar N'Djamena, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
On se retrouve au Niger où la dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri, située à la frontière avec le Mali et le Burkina Faso, a été au centre des débats au Parlement. Un élu de cette région a interpellé le ministre en charge de la sécurité publique sur la question. Le point avec notre correspondant Abdoul Razak Idrissa.
Le député Soumana Hassan a dressé pour s'en inquiéter un sombre tableau de la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri. Meurtre, enlèvement de citoyens, destruction de biens ou encore vol de bétail. C'est à tout cela qu'est venu se greffer depuis quelques semaines une nouvelle forme d'action des groupes armés, le prélèvement de la zakat ou aumône légale auprès des populations, les éleveurs notamment.
Le mode opératoire des bandits consiste à intercepter les troupeaux de bétail en pleine brousse. Ils communiquent aux éleveurs le montant de la zakat à prélever et intiment aux préfets le versement de cette zakat en espèces et ou en nature. Ils vont même jusqu'à délivrer des reçus. le village de Goulbal, par exemple, a versé 700 000 francs. Le village de Sangara, 700 000 francs et 9 petits ruminants. Bossé-Bangou, 400 000 francs. Kofuno, 600 000 francs. Ziban-Kouartégui, 90 000 francs et 5 vaches. Famalé, 600 000 francs.
La situation inquiète aussi le gouvernement, selon le ministre de l'Intérieur, qui a annoncé, pour répondre à la question des mesures prises pour y faire face, le déploiement de plusieurs opérations militaires pour juguler le phénomène et même l'insécurité de façon générale dans la région. Mohamed Bazoum.
Certaines des localités qu'il a citées sont des localités sur lesquelles nous n'avons pas eu les mêmes informations, mais pour la plupart, les localités de la région de Lanzourou ont été affectées en effet par ce phénomène d'extorsion qui est justifié par cette idée de la zakat qu'il faut prélever sur les biens des paysans. Relativement à cette situation, nous avons pris des mesures et vous aurez constaté qu'il y a un mieux que plus que cela. Ces agissements ont même cessé. Nous avons déployé des forces nombreuses, importantes, avec un impact conséquent. Mais au même moment, l'état-major tactique basé à Toroudi, qui a en charge la situation à la frontière du Burkina, a déployé des forces importantes qui ont investi la forêt, tous les camps qu'il y a dedans, sont en train d'être nettoyés.
Récemment, au cours d'une réunion du G5 Sahel à Niamey, le chef d'état-major de l'armée nigérienne a affirmé que la zone frontalière entre les trois pays, Mali, Niger, Burkina Faso, est en passe de devenir un sanctuaire de groupes terroristes et criminels. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Une petite escale au Nigeria où la commission électorale publie les listes provisoires en prévision des élections de février 2019. Comme le prévoit la loi électorale, cette publication a notamment pour objectif d'apporter plus d'éclairage sur les électeurs inscrits. Notre correspondant Gilbert Tamba s'est rendu dans un bureau d'inscription pour s'enquérir de l'atmosphère sur place.
Être inscrit sur la liste électorale est une condition incontournable pour pouvoir voter aux prochaines élections générales au Nigeria. Il est 10h au centre d'enrôlement des électeurs situé dans la zone 3 de la capitale fédérale, Abuja. Youssouf Dantala Mohamed est parmi les premiers à venir chercher son nom sur la liste. Il finit par le trouver et il vient de recevoir sa carte électorale.
J'ai vu mon nom et j'ai pris tous les détails. J'ai demandé à la personne au portail pour me montrer où je pouvais récupérer ma carte électorale. Il m'a dirigé vers un bureau et j'ai attendu l'arrivée du staff. Je me suis présenté avec les détails et ils m'ont remis ma carte. Je pourrai désormais exercer mon droit civique, celui d'aller voter en tant que Nigérian.
Il n'y avait pas d'engouement autour de cette opération puisque beaucoup d'électeurs ne sont pas encore informé. John Abou est aussi venu chercher son nom, un nom qu'il ne trouve pas sur la liste.
Je ne suis pas satisfait d'une telle situation. S'ils doivent faire un travail, ils doivent le faire avec rigueur pour éviter le stress aux gens parce que nous nous sommes inscrits ici, donc je ne vois pas la raison pour laquelle ils vont envoyer ça ailleurs. C'est une grande préoccupation pour moi et je ne suis pas content.
Du côté de la CENI, on annonce que des équipes seront déployées dans tout le pays et cette opération qui doit durer pendant une semaine aboutira à la publication des listes définitives des électeurs. L'affichage des listes d'électeurs permettra aux citoyens de faire des réclamations et des objections concernant des mineurs, des décès, des électeurs étrangers, entre autres, susceptibles de figurer sur le registre des électeurs. Aliou Beloué, le directeur adjoint de la communication de la Commission nationale électorale indépendante, il explique ce qui est prévu pour ceux qui n'ont pas leur nom sur la liste électorale.
If such individuals happen to be part of those,
si ces gens font partie de ceux dont les noms ont été oubliés par erreur en consolidant la liste, une procédure est mise en place pour eux pour leur permettre de signaler l'absence de leur nom sur la liste. Un formulaire leur sera remis pour le remplir et à un moment opportun, la commission va revoir toutes les procédures.
Selon la commission électorale, plus de 80 millions de Nigériens en âge de voter sont inscrits sur les listes électorales à travers le pays. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Cameroun, une journaliste de télévision privée a été transférée à la prison de New Bell à Douala. Il est reproché à Mimi Mefo d'avoir publié une information attribuant à l'armée camerounaise la mort d'un missionnaire américain tué la semaine dernière dans la région anglophone du Nord-Ouest. Au micro de Raissa Girondin, maître Alice Ncom, assurant sa défense, estime que ce qu'on lui reproche ne relève pas du tribunal militaire.
Mimi, journaliste à la télévision Equinox, devait répondre à une convocation de la Légion de gendarmerie de Douala dans le quartier Bonanjo. Nous étions 8 avocats qui l'avons accompagnée à cette convocation.
Qu'est-ce qu'il lui reproché?
Et là, qu'est-ce qu'il lui notifie comme infraction? Il lui dit, voilà, vous avez commis l'infraction de propagation de fausses nouvelles et de cybercriminalité parce que nous avons fait une capture d'écran, votre page Facebook, où il apparaît que vous disiez dans un de vos posts que c'est une balle de l'armée camerounaise qui a tué le missionnaire américain.
D'où provenait la source de l'information de Mimi Mefo?
Je crois que c'était une agence CNA.
Cameroun News Agency.
C'est ça.
Donc elle a repris cette information en ligne, qu'elle a ensuite relayée. Une fois relayée, ils ont fait une capture d'écran.
C'est à partir de là qu'on la convoque.
On l'a accusée donc de faire de la cybercriminalité. Donc comment on peut vraiment comprendre ces chefs d'inculpation?
Moi, je ne peux pas les comprendre parce que je suis un juriste. Quand j'analyse ça par rapport à la loi, même sur la cybercriminalité, que ce soit sur la propagation de fausses nouvelles, encore moins la sûreté de l'État, je ne vois aucun lien qui puisse conduire à une infraction, encore moins à une condamnation. Parce que, en ce qui concerne la propagation de fausses nouvelles, le libellé du texte vous donne quand même la possibilité de dire que vous aviez de bonnes raisons de croire à la véracité des faits, et c'est pour ça que vous avez partagé ça. Que serait Internet si on ne pouvait pas partager cette information?
Il y a plusieurs journalistes qui ont été arrêtés. Est-ce que ces journalistes-là ont été arrêtés pour les mêmes chefs d'inculpation ou c'est autre chose?
Non, il y a des journalistes, c'est pour autre chose. On leur reprochera peut-être pas la cybercriminalité. On va leur reprocher d'avoir propagé des nouvelles parce que ce qu'ils ont dit n'était pas de nature à plaire à l'armée.
Voilà. Comment vous prévoyez maintenant la suite de l'affaire Mimi Mefo? Quelle est la suite de la procédure?
La procédure n'est pas respectée. Les lois ne sont pas respectées et la partie en face a l'air de pouvoir se comporter comme au-dessus des lois. Parce que si on suit les lois de la République, Mimi ne doit jamais se retrouver devant un tribunal militaire pour ces faits-là. Parce que, un, il est interdit aux tribunaux militaires de juger les civils. C'est interdit. Ce n'est pas de leur compétence. Ça ne se retrouve même pas dans le texte, les dispositions du code de justice militaire. Donc déjà ça, c'est extrêmement important et ça donne à tout le reste du procès un goût amer d'arbitraire et d'injustice et d'illégalité, de violation des droits. Nous pensons bien qu'au cours d'un procès juste et équitable, on va démontrer son innocence.
Maître Alice Ncom était jointe à Douala au Cameroun.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Joselle Morissin, à la console Vasco Volarich, à la présentation Nathalie Barge. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. très bonne soirée à toutes et à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM. Bahia, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord.